franceinter.fr.
La revue de presse, Laetitia Gaillet, le patriotisme aujourd'hui. Bonjour Laetitia.
Bonjour Marc.
C'est la démocratie.
C'était le mot d'ordre d'Hossinaït Ahmed. Hossinaït Ahmed, dirigeant historique de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, est mort hier à Lausanne en Suisse à l'âge de 89 ans. Le site du Monde retrace ce matin l'histoire de ce militant contre l'ordre colonial qui fut aussi un opposant déterminé à l'ordre nouveau instauré après l'indépendance de l'Algérie en juillet 62. El Moudjahid, quotidien proche du pouvoir algérien, évoque l'éclaireur qui voulait à tout prix l'indépendance de l'Algérie, un militant au long cours court et un semeur d'espoir infatigable. Il se situait dans le sens de l'histoire. Il a toujours cru que son pays devait apporter sa contribution active aux grandes questions qui agitent les sociétés contemporaines. Retiré de la vie politique depuis 2013, reprend Le Monde, il n'aura pas vu de son vivant l'avènement de l'Algérie démocratique et ouverte qu'il appelait de ses voeux. Lui qui s'était retiré, ou plutôt qui s'était attiré les foudres des élites francophones quand en 91, alors que le coup d'État se préparait contre des élections législatives remporté par le Front islamique du Salut, lui qui avait appelé au respect de la légalité constitutionnelle avec son slogan « Ni État policier, ni État intégriste ». État policier, légalité constitutionnelle, démocratie, patriotisme. Il est amusant de voir comment aujourd'hui les mots d'hier d'Hossinaït Ahmed ont une résonance dans l'actualité française.
Et on en vient justement à ce qui fait parler l'ensemble de la classe politique et nous aussi accessoirement depuis hier, la déchéance de nationalité qui fera finalement partie du projet de révision de la Constitution.
Alors on peut sourire comme le fait Charlie Hebdo de ce que sera cette année la magie de Noël, un Noël parano dessiné sur deux pages par Villemain avec une table de réveil, des bouteilles vides, une bûche à peine entamée et des convives arrosés qui se cachent en bout de table face à la cheminée. Car il est minuit. Des pieds rouges apparaissent du conduit. C'est le Père Noël. Attention, danger! La BRI, le RAID, le GIGN et les CRS l'attendent, fusils et pistolets chargés pointés sur lui. Noël parano, on vous dit. Et avec le revirement d'hier sur la déchéance de la nationalité, on est en plein dedans. Le Figaro décrit les coulisses de ces derniers jours et parle de coups de théâtre étranges quand Libération développe l'itinéraire d'une volte-face. Au final, dans ce concert de j'y vais pas, on retiendra l'épilogue hier matin, donc en Conseil des ministres. C'est Nathalie Segone de l'Opinion qui le raconte. L'ordre du jour du Conseil est sur la table devant les ministres. Le retard habituel de François Hollande leur laisse le temps d'en prendre connaissance. On a très vite vu que la déchéance était dans le texte, explique un ministre. C'est comme cela qu'on l'a découvert. Moment de stupéfaction autour de la table, on était soufflé. François Hollande arrive, se justifie. J'ai donné ma parole à la nation, je la tiens. Christiane Taubira n'a pas dit un mot. D'après Nathalie Chuc, du Parisien aujourd'hui en France, c'est Georges-Paul Angevin, ministre de l'Outre-mer, qui a parlé. Mais c'est contraire à nos valeurs. « Je sais ce que ressentent certains », aurait répondu François Hollande. « Je connais vos convictions. Je vous demande de la solidarité et de l'unité. » Reste qu'il va falloir trouver les 3/5 des voix au Parlement et s'il ne les obtient pas, François Hollande serait prêt, dit-on, à consulter les Français par référendum.
Et un mot, Cécile Duflot, l'hypothèse du référendum pour faire passer la réforme ?
Mais ça pose d'ailleurs beaucoup de questions sur le rôle du président de la République. D'abord, il décide tout seul, effectivement. C'est très intéressant d'écouter ce que vous venez de raconter. Les ministres découvrent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune discussion politique. Et si les parlementaires ne votent pas comme souhaite le président, alors le président fait un référendum. Moi, je pense qu'il y a aussi une réforme démocratique profonde à faire. On ne peut pas être dans la main d'un individu et d'un seul pendant 5 ans, qui peut changer de point de vue surtout, qui peut avoir dit le contraire de ce qu'il pensait.
On vous écoute, Cécile Duflot, on a l'impression que vous parlez de Nicolas Sarkozy ce matin.
Mais Monsieur Fauvel, si vous pensez qu'un jour, je croyais venir chez vous, un 24 décembre, au matin, pour commenter la déchéance de nationalité portée par François Hollande, président de la République, franchement, je n'aurais jamais imaginé ça. Et je pense que nous sommes nombreux à avoir mis un bulletin de vote à son nom dans l'urne, qui n'imaginions pas une seule seconde que tout ce que nous avons fait en 2010, en 2011, nous aboutirait et nous emmènerait à cette situation. Et je pense que c'est le cas d'un certain nombre de ces ministres. Et oui, ils ont le droit d'avoir des convictions, ils ont le droit de les défendre et ce serait leur honneur. Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans cette situation de chantage dans laquelle nous met le président de la République. Ça n'est pas possible.
Laetitia Gaillet.
Alors dans cette histoire, l'attitude de François Hollande est beaucoup commentée ce matin dans la presse par les éditorialistes. « Ne cherchez plus, le dindon et la farce ont été trouvés », écrit Mathieu Verrier de La Voix du Nord. « C'est la surprise du chef, Jean-Pierre Bédéhi, La Dépêche du Midi. Hollande déchoit, jeu de mots de Pascal Coqui, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, attentat contre la République, Patrick Le Yarrick, L'Humanité, etc. » etc. Et puis il y a les politiques de gauche qui parlent anonymement. Le revirement d'hier, un proche de François Hollande explique aux Parisiens aujourd'hui en France, François s'en tape qu'on le prenne pour une bille, il joue aux échecs. Un autre proche, ou peut-être le même d'ailleurs au Figaro, tactiquement, il a baladé tout le monde. Parce qu'il ne répondait pas à la question, chacun pensait qu'il allait céder. Mais il faut savoir une chose avec Hollande, quand il ne répond pas à une question, c'est simplement que la question l'emmerde. Hollande a laissé dégorger les escargots avant de trancher.
Et Christiane Taubira dans tout ça ?
Eh bien là aussi, les commentaires vont bon train. Pour Libération, c'est le désaveu. Mediapart, c'est le naufrage politique. La ministre effacée. Mais que fait-elle encore là ? Se demandent Lénaïque Bredoux et Michel Deléant. Le site Atlantico compare lui ce matin François Hollande à un sultan et la ministre de la Justice à l'héroïne des mille et une bourdes. C'est elle qui lundi donc expliquait à la télévision algérienne que la déchéance de la nationalité ne serait pas retenue. Taubira, écrit Gilles Gatner, est imprudente, volcanique, expéditive, absente et déroutante, une sorte d'héroïne de Monterland qui, au fond, n'aime guère qu'on l'aime. Dans l'entourage de Manuel Valls, on explique aux Échos que la question de son départ ne se pose pas. De toute façon, plus la droite va demander son départ et l'injurier, plus elle souhaitera rester.
Et pendant ce temps, on en apprend un peu plus aussi sur l'assaut mené à Saint-Denis contre Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attentats de Paris.
Oui, c'est-à-dire dans Le Monde, le résumé du rapport sur les circonstances de l'intervention. On y apprend par exemple qu'aucune arme de guerre n'a été retrouvée, contrairement à ce qu'on a pu dire, ou plutôt à ce qu'a pu dire le patron du raid. Il y avait dans les décombres seulement un pistolet semi-automatique, sans chargeur, mais avec une balle. L'essentiel des munitions, plusieurs milliers, ont été en réalité tirées par les policiers d'élite. Le risque qu'un piège ait été tendu n'était pas à exclure, justifie-t-on du côté du ministère de l'Intérieur.
À lire également dans la presse aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen déclare sa flamme à Nicolas Sarkozy.
Oui, à chacun sa stratégie politique, c'est à lire sur le site du Soir de Belgique qui a consulté l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. On y apprend donc que le fondateur du Front National ne tarit pas d'éloges sur l'ancien président de la République. Selon lui, Nicolas Sarkozy est de loin le meilleur. Il est celui qui n'hésitera pas à déborder Marine sur sa droite. Et ce n'est pas tout. Selon le Menhir, toujours, Sarkozy est un battleur de qualité qui peut faire rêver et qui a du charme, ce que n'ont ni Juppé ni Fillon qui ont tous les deux des gueules d'empeigne. Les deux anciens premiers ministres en prennent pour leur grade. Sarkozy a les moyens de gagner cette bataille car ses deux principaux concurrents ont des têtes de croque-mort qui sont véritablement impayables.
Allez, pour terminer, Laetitia, vous nous emmenez en balade.
Actualité de Noël exige, parlons des rennes sur le making-of.
Oui, parlons des rennes.
Voilà, de moi peut-être, mais plutôt des animaux. Sur le making-of de l'AFP, on peut y découvrir le voyage de Greg Becker en Mongolie, au royaume des rennes. Magnifique photo de la taïga mongole. 12 jours de voyage pour rencontrer ses éleveurs qui sont, dit-on, parmi les derniers à perpétuer un mode de vieux de plusieurs millénaires. Ils appartiennent à la minorité Duka, une ethnie dont le nom mongol est Tsatan, littéralement ceux qui possèdent des rennes. Les Duka dépendaient jusqu'ici de leurs bêtes pour le lait et leurs déplacements, mais leur habitat est perturbé par le changement climatique. Et de plus, le gouvernement, dans le souci de préserver la nature, a interdit l'accès à de vastes territoires sur lesquels ils avaient l'habitude d'aller et venir. Conséquence, ces éleveurs ont cessé d'être autosuffisants. Alors, question du jour, de combien de rennes le Père Noël a-t-il réellement besoin pour distribuer l'ensemble de ses cadeaux sur la planète cette nuit ? Le mensuel Cosette a fait les calculs. Si on prend en compte leur force de traction, il en faudrait 500 000. Pourquoi ? Eh bien parce que figurez-vous qu'on s'échangera demain matin sous le sapin entre 120 et 130 millions de cadeaux en France. Le Père Noël doit quand même livrer 75 000 tonnes de paquets en une nuit, soit au total 3500 tonnes de CO2 dépensées. D'autant que pour emballer ces paquets, les lutins auront décimé en tout plusieurs milliers d'arbres. Pas très écolo, le Père Noël, car 11 000 tonnes de CO2 dépensées pour l'emballage. Bon, je ne vous parle pas des jouets qu'il est allé chercher en Chine. Alors soyons très clairs, et rien contre nous, Marc, le Père Noël, non, n'est véritablement pas très écolo.
Mais il passera quand même la nuit prochaine. Merci beaucoup Laetitia Gaillet.